Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bonjour l'Inspi, le podcast des personnes qui ont choisi de faire ce qu'elles aiment. Ce sont des entrepreneurs, des artistes, des cadres ou salariés qui adorent leur métier. Chaque lundi, je reçois un nouvel invité qui nous raconte son histoire, les étapes de son parcours et ses inspirations. Je lui pose mes questions, puis on discute, sans filtre, autour d'un café. Je suis persuadée que ces rencontres peuvent vous apporter à vous aussi la dose d'inspiration et de motivation dont vous avez besoin. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur le compte Instagram Bonjour l'Inspi-du-bas podcast. Merci beaucoup et bonne écoute.
Bonjour Ariel.
Bonjour, comment ça va?
Bah super, et toi?
Bah la pêche là, il fait pas très beau aujourd'hui mais il faut toujours avoir le smile et se dire que demain ce sera un meilleur jour, mais sinon tout va très très bien.
Bah merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast et de m'accueillir dans tes locaux. Je suis hyper contente d'être là et on va pouvoir parler plein de choses.
On parle de ce que tu veux, je suis open mind aujourd'hui.
Parfait, bah déjà un peu pour les auditeurs, je commence toujours par la première question un peu fatidique, hein, c'est est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours, ce que t'as fait jusqu'ici, que ce soit dans les études, l'expérience pro, enfin n'importe quoi pour qu'on comprenne un petit peu qui tu es.
Avec grand plaisir. J'ai combien de temps pour me décrire? Non, je rigole. Je vais faire ça hyper rapidement. En gros, j'ai fait un master en maîtrise de la supply chain logistique en alternance. Et j'étais à l'époque chez Geodis Projet Industriel chargé d'exporter des pales d'éoliennes depuis l'Europe vers l'Afrique. J'ai pas fini mon master et j'ai créé ma boîte avant ma soutenance parce que, en fait, j'avais cette fibre entrepreneuriale depuis très tôt. Enfin, je pense toujours que pour l'instant, ma place n'est pas dans une société en tant que salarié. Même si je pense qu'il faut des entrepreneurs, des salariés, il faut tout, c'est super important, mais pour ma part en tout cas, ça l'aurait pas fait, ça l'a pas fait. Donc du coup, j'ai créé ma première société Good Morning, peut-être 10 ans maintenant. Au bout de 3 ans, je l'ai revendu à mon associé, qui l'a revendu à Fleury Michon cette année, je crois. Et ensuite, on a créé Dreamcatcher Sales avec Corentine et Pierre-Michel, qui est depuis 5 ans maintenant. Donc cette magnifique aventure. Et notre agence, donc l'agence Dreamcatcher Sales, est chargée de pouvoir proposer des profils commerciaux en régie, en recrutement et faire de la formation également pour pouvoir améliorer ses techniques de vente auprès des startups, des scale-up, mais également de tous les grands comptes qui ont potentiellement des projets inno internes. Très, très dans le commercial et très dans le commercial 2.0, on va dire.
Pour revenir un petit peu sur le début de ta carrière, on va dire, ça t'a pas fait peur ou enfin pourquoi t'as pas attendu de passer ta soutenance et de finir ton master avant de lancer ta boîte? Tu t'en fichais des études ou...
C'est une très bonne question. En fait, je crois que j'ai eu un déclic. En fait, j'ai eu le déclic de deux choses. Le déclic du OK, il y a un jour où il va falloir que tu passes le pas. Donc pourquoi pas aujourd'hui? Et j'ai eu également ce déclic de me dire est-ce que le fait d'avoir une ligne de plus dans l'onglet formation sur ton CV est plus valorisant qu'une ligne sur entrepreneur pendant peut-être, je sais pas, ça se trouve ça aurait pu durer un mois, deux mois, trois mois, ça a duré trois ans. C'était une très très belle aventure, mais je pense qu'en tout cas, à mon avis, ça a plus de valorisation de dire je suis entrepreneur et j'ai été polyvalent. Sur tous ces trois années-là, j'ai travaillé aussi bien sur du commercial, du marketing, de la finance. En fait, j'ai appris en trébuchant finalement, voilà, que juste une ligne, tout simplement. C'était peut-être le moment pour moi également de me lancer et de dire OK, on y va et advienne ce que pourra, quoi, on verra.
Non, mais ouais, c'est sûr. En fait, tu as suivi ce que tu avais envie de faire. Et c'est vrai que tu as eu potentiellement raison. Enfin, là, sur le coup, c'était ça qui faisait sens pour toi, t'y aller. Et puis, je pense que tout est valorisant, les études ou une aventure entrepreneuriale. Après, ça dépend derrière ce que tu as envie de faire, en fait.
Exactement.
Et vu que toi, tu avais cette fibre-là.
Exactement. En fait, il n'y a pas de parcours prédéfini et je serai jamais là à dire oui, il faut absolument entreprendre, parce que je parle souvent, en tout cas aux gens qui veulent entreprendre, de cette douce odeur, ce doux élixir d'entrepreneuriat où on pense que c'est la liberté, ça y est, on fait ce qu'on veut, je suis mon propre patron, machin, mais en fait, c'est énormément de devoirs. De devoirs envers soi, de devoirs envers ses salariés, de devoirs envers le marché. Donc c'est beaucoup, beaucoup de choses et ça, faut vraiment en avoir conscience lorsqu'on entreprend. Donc c'est vrai que cette légère senteur d'entrepreneuriat est très douce au début et on se dit, ah, c'est super, je vais pouvoir me lever quand je veux. Mais en réalité, non. En réalité, tu travailles deux fois plus, tu dors deux fois moins, t'es tout le temps stressé, mais c'est vrai que tu sais pourquoi tu te tapes, tu sais pourquoi tu te lèves le matin, tu sais ce que t'as envie de faire et tu sais pourquoi tu le fais, tu sais pourquoi tu fais tous ces sacrifices, entre guillemets, que ce soit pro, perso, voilà, peu importe. Ça, c'est très important.
Ouais, c'est sûr qu'il y a des bons et des mauvais côtés dans l'entrepreneuriat. Après, c'est
comme
bien
dans
de
tout, comme dans tout.
C'est bien de savoir quels sont les mauvais côtés parce que, enfin là, en ce moment, ça fait déjà quelques années, mais on parle beaucoup des startups, des licornes, des réussites, être mon propre patron, être libre et tout. Mais en fait, derrière, ça amène quand même pas mal d'à côté qui sont, comme tu dis, tu bosses énormément, t'as beaucoup plus de responsabilités et en plus, t'es stressé un peu tout le temps, quoi.
Après, c'est encore une fois, je parle à mon niveau, j'ai pas envie de parler au nom de tous les entrepreneurs et tous les start-upers ou toutes les boîtes, quoi. Je pense que chacun a ses ambitions et chacun vit son entreprise et son entrepreneuriat à sa manière. Je connais plein d'entrepreneurs qui sont plus stressés que moi, d'autres qui sont beaucoup moins stressés que moi, mais tous n'ont pas les mêmes ambitions et tous font pas autant de sacrifices pour arriver justement à leurs objectifs. C'est tout, mais c'est juste qu'il faut savoir, quand on entreprend, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Pourquoi on veut entreprendre, qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut apporter de plus.
Ouais, bah c'est clair que c'est hyper important
de
savoir ce qu'on a envie de faire derrière, parce que sinon il faut avoir l'énergie et les épaules un peu pour y aller, quoi.
Et l'énergie, ouais, c'est indispensable. Il faut être entouré, avoir effectivement beaucoup d'énergie. Et de plus en plus, je me rends compte, il faut essayer d'avoir une vie saine, entre guillemets, essayer de dormir un max, ce qu'on peut dormir, essayer de bien manger, faire du sport. En ce moment, je gaffe tout le monde avec faire du sport parce que je m'y suis remis et c'est un vrai kiff. C'est vrai que ça redonne de l'énergie. Et ça permet également de pouvoir pousser ses limites, j'ai l'impression, pour moi en tout cas, c'est ce qui se passe, quoi.
Ouais, c'est clair que si tu sors tous les soirs jusqu'à 4h du mat en buvant énormément, c'est sûr que le lendemain t'es peut-être pas opérationnel pour travailler avec ton équipe, etc., quoi.
Exact, et on t'attend, on t'est le capitaine, quoi, hein. Nous on est trois, donc c'est vraiment cool de pouvoir également être associé à trois dans une même aventure, et on est hyper complémentaires, on s'entend super bien, donc c'est vraiment un vrai bonheur. Mais pour les entrepreneurs qui sont tout seuls ou qui ont une association qui est pas top, c'est deux fois plus dur encore, quoi.
Et du coup, pour revenir au tout début, quand tu disais que tu avais la fibre entrepreneuriale, ça te venait d'où en fait ? Pourquoi tu as voulu entreprendre ?
En vrai, j'ai aucune personne dans ma famille qui a entrepris. Donc c'est sûr que ça ne vient pas d'un modèle que j'ai pu avoir autour de moi. Je pense savoir d'où ça vient, c'est-à-dire un jour je me suis posé la question, en fait, lorsque j'étais chez Geodis Projet, donc je facture énormément, je pense que je devais générer un truc comme 7 millions d'euros alors que j'étais qu'en alternance par an, et en alternance j'étais payé 700 euros par mois. Et je me suis dit, mais en fait, genre, je travaille pour qui là ? Genre, en fait, je rapporte 7 millions d'euros à un gars que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, où j'aurai jamais aucune reconnaissance pour 700 balles par mois. En fait, je préfère faire tous ces sacrifices-là, quitte à gagner moins, voire pas du tout, mais pour moi, pour moi-même. Je pense que c'est ça le déclencheur. Après, il ne me manquait plus que l'idée. Et l'idée, je l'ai trouvée et on a testé. Après, voilà, c'est Market Never Lies. Donc, quand on a une idée, il faut la tester. On teste, learn fix. Donc, on teste, on améliore en continu jusqu'à trouver le bon positionnement. Et dès qu'on a trouvé, on met la cinquième, quoi. On fonce.
Ouais, donc en fait, c'est plus un dégoût. Enfin, je ne sais pas si c'est un dégoût, mais en gros, l'entreprise lambda où tu es un salarié, tu n'avais pas envie de ça.
C'est pas un dégoût parce que, si je dis ça c'est un non-respect envers tous les salariés qui travaillent dans les grands comptes. Et je pense que, encore une fois, il faut tout. C'est aussi bien que d'entreprendre. Il n'y a pas de priorisation, de ranking, quoi. Il n'y a pas de différence. C'est juste que moi, ça me convenait pas, c'est tout. Moi, ça me convenait pas. Je travaillais plus que l'ensemble des commerciaux qui étaient là depuis 20 ans. Je faisais plus de chiffre d'affaires qu'eux. J'adorais mon job et j'adore toujours le transport exceptionnel. C'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant. Mais travailler pour quelqu'un d'autre que moi-même, faire tout ce sacrifice pour quelqu'un d'autre que moi-même, sans avoir aucune reconnaissance ni financière ni morale, ça m'intéresse pas, quoi. C'est tout. Donc je préférais faire ce sacrifice pour moi. Et par rapport à ma vision et à mes ambitions, c'est tout.
Ouais, et te lancer dans ton aventure.
Exact, exact.
Et du coup, vous avez monté ça à deux, c'est ça, c'est ce que tu faisais.
À trois, il y a Corentine Bern.
Non, mais quand je te parle de la première boîte.
La première, effectivement. J'ai commencé et Damien m'a rejoint quelques mois plus tard parce que lui, il devait finir également ses alternances. Et après, on a monté, mais on a commencé dans une chambre de bonne qu'on avait, je me rappelle encore, qu'on avait rendu un peu aux normes de labo. Mais vu qu'on était en flux tendu, du coup, on n'avait pas de cuisson ni rien, donc ça fonctionnait, mais on a commencé avec rien. Et en fait, on avait commencé de mémoire avec 4000 euros. On avait mis 2000 euros chacun et on avait commencé ça, voilà.
Et du coup, est-ce que tu peux expliquer ce que vous faisiez ?
La société s'appelle Good Morning, c'est la livraison de petits déjeuners en B2B. Donc on allait livrer le matin des centres d'affaires, des banques, des team building, voilà. Et après, on a fait une diversification sur la partie lunch, donc le déjeuner, et puis après le cocktail le soir. Et maintenant, je crois qu'ils font, c'est un vrai traiteur, quoi. Enfin, c'est un traiteur qui fait tout, mais moi j'ai quitté avant que ça devienne justement aussi gros, entre guillemets. C'est un univers qui est très intéressant, le catering, donc la partie métier de traiteur, mais qui, moi, me convient pas parce que genre, c'était beaucoup trop contraignant en termes d'horaire, beaucoup, parce qu'on faisait quasiment 100% de notre chiffre d'affaires entre 6h et 9h. Quoi. Donc à l'époque, ça va, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, mais aujourd'hui, ce serait très compliqué.
Et du coup, t'es quand même resté 3 ans et t'as décidé de faire autre chose après.
Exactement. Bah, en fait, j'avais vu tout le poste, si tu veux. Genre, on avait fait tout le petit déj, on avait fait en B2C, on avait fait en B2B, donc pour les particuliers, pour les professionnels. J'avais monté tous les partenariats justement à l'époque, donc j'en avais fait du B2B2B en marque blanche, donc j'avais un peu tout fait, si tu veux. C'était plus aussi marrant qu'au début, et donc du coup, effectivement, j'ai préféré, et on était en plein développement, hein, doublé le chiffre d'affaires quasiment tous les ans. On était arrivé à l'époque à moins d'1 million d'euros en moins de 3 ans, et j'ai préféré effectivement revendre à ce moment-là. Parce que ça me plaisait plus, et moi je pense que lorsque quelque chose te plaît plus, vaut mieux partir dans les meilleures conditions possibles, aussi bien personnelles que professionnellement, chose que j'ai faite. Et voilà, et changer, tourner la page, aller sur autre chose, c'est tout.
Ouais, enfin, c'est un peu comme quand tu disais que t'as pas forcément fini tes études, là aussi t'as suivi tes envies.
Et... Exactement, et c'est vraiment, c'est-à-dire c'est une des vertus de Dreamcatcher Sales, c'est business is a game, et en fait, life is a game too. Tu vois, c'est-à-dire que vraiment, tant que tu t'amuses, c'est cool. Dès que tu t'amuses plus, pose-toi des bonnes questions.
Ouais, tu penses que toi, c'est hyper important d'aimer ce que tu fais. Enfin, c'est un peu débile ma question, mais je veux dire, il y a plein de gens qui sont dans des boulots qui leur plaisent pas forcément, mais tu vois, ils essayent de faire un peu le pour et le contre, et l'équilibre, ça leur va, quoi. Mais toi, c'est vraiment, il faut s'amuser, il faut vraiment kiffer ce que tu fais.
Ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on partage avec tous nos collaborateurs ici, surtout lorsqu'on a une intensité de travail qui est très très forte, où il y a des visions qui sont... bien carrés, bien établis et qui sont transparentes auprès de l'ensemble des collaborateurs et des objectifs pareils, des chiffres pareils. Ouais, vaut mieux arriver et dire ok, je vais encore m'amuser aujourd'hui, je vais encore apprendre quelque chose aujourd'hui, je vais encore découvrir des nouvelles personnes, découvrir des nouvelles choses, des nouvelles techniques de vente. Et voilà, et ça devient un jeu en fait. Et donc tu t'habitues à ce jeu-là, tu prends goût. Qui prend vraiment goût.
Ouais, et toi, avec tes expériences, tu peux aussi... là, par exemple, à la fin de Good Morning, t'avais le choix aussi de quitter, quoi. T'as pu partir. Enfin, je pense que quand on est entrepreneur, on a peut-être plus de... Pas de facilité, mais tu vois, t'as pu vendre tes parts et au moins, tu l'as fait.
Ouais, mais tu peux pas faire ça n'importe comment, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis pour, justement, dans n'importe quelle relation professionnelle, si tu veux quitter un navire, tu le fais dans le plus professionnellement et dignement possible. Tu peux pas laisser les gens comme ça du jour au lendemain et dire voilà c'est fini. Non, faut vraiment faire une bonne passation. Pour la petite histoire, nous il y avait un deal où je devais effectivement monter cette offre de partenariat, faire les premiers partenariats en marque blanche, chose qui a été fait. Ça a rené, les process étaient établis et voilà, je suis parti. C'était un deal. C'était un deal qu'on avait en fait déjà closé 6 mois plus tôt quoi. Donc c'est juste une préparation à l'offboarding quoi. Comment je vais sortir sans laisser tout ça. N'importe comment et potentiellement mettre la société genre en difficulté ou en danger. Et ça c'est pas possible.
Ouais, c'est vrai que tu as beaucoup plus de responsabilités quand tu es cofondateur, fondateur que un salarié.
Mais même un salarié, hein. Même un salarié aujourd'hui, on le voit. Alors chez les commerciaux, en fait, c'est quelque chose d'assez particulier puisque les commerciaux, on dit qu'un commercial qui a envie de partir, on fait tout pour qu'il puisse partir le plus vite possible puisque ça peut effectivement avoir un impact sur l'ambiance, mais il va être beaucoup moins impliqué dans la vente. En réalité, un commercial qui est professionnel, pas forcément en fait. C'est juste que peut-être qu'on va pas lui demander d'aller closer des nouveaux deals, mais au moins qu'il finisse les deals qui sont dans le pipe, qu'il aille tout closer, qu'il fasse un bon transfert de dossier, qu'il aille voir tous ses clients pour expliquer et que ça n'ait aucune atteinte sur l'image de marque de l'entreprise et ensuite qu'il s'en aille. Mais il n'y a aucun problème et il restera en très bonne relation avec son ancien employeur. Et surtout que le monde est tout petit et encore plus dans les startups, tout ça.
Ouais, donc du coup, faut pas faire n'importe quoi.
Exactement.
Quand on veut quitter une entreprise.
Exactement.
Et du coup, comment t'es passé de Good Morning à Dreamcatcher Sales?
Parce que c'est l'amour quand même... de l'avant. En fait, très bonne question. J'ai eu une grosse remise en question après Good Morning puisque en fait, c'était 3 ans qui étaient très intenses, où je me levais le matin, je sais pas, je devais me lever à 6h30 et je me couchais le soir à minuit parce qu'il fallait préparer le lendemain matin, on était en flux tendu, puisqu'on était livré la nuit pour préparer le matin. Enfin bon, c'était hyper, hyper intense et il y avait aussi toute la partie du coup déjeuner et dîner, donc toute la journée et on avait du personnel à gérer. Et en fait, je m'étais jamais vraiment posé sur... finalement, qu'est-ce que tu aimes faire ou ce que tu aimes pas faire. En fait, c'est pour ça que aussi que j'ai quitté Good Morning parce que j'avais la tête dans le guidon et que en fait tous les jours se ressemblaient et que j'avais plus du tout cette flamme qui m'animait au début de l'entreprise quoi. Donc du coup, je me suis pas mal recentré sur ce que j'aimais et ce que j'aimais pas et une chose est sûre, c'est que en fait sur toutes les pensées que j'avais, toutes les réflexions que j'ai eues, c'était tout le temps en fait, ce que tu aimes, c'est faire du sales. C'est vraiment aller vendre, rencontrer des gens, s'intéresser aux gens. et particulièrement aux gens qui ont une passion. J'adore les gens qui ont une passion. Et ça peut être n'importe quoi. Genre, je peux parler avec des gens qui sont fans de billes, comme des gens qui sont fans de mécanique. Des gens qui ont une passion, j'adore leur parler. Enfin, ceux qui n'ont pas de passion aussi, j'aime bien leur parler. Mais ceux qui ont une passion, genre, c'est vraiment hyper intéressant, même si c'est quelque chose qu'on ne connaît pas ou à premier abord, on pourrait dire mais putain, mais qu'est-ce que c'est chiant. La dernière fois, genre, j'ai passé 2 heures à parler avec un candidat qui est dans l'emballage de médicaments. Et genre, quand j'ai vu son CV au début, j'ai dit putain, genre, ça va être compliqué, mais c'était passionnant parce que, en fait, la personne, genre, a fait toute sa carrière là-dedans. Et donc, du coup, elle t'explique vraiment tout le processus et quelles sont les différentes normes et pourquoi et comment ils vendent, quels sont les interlocuteurs, quels sont les différents secteurs, quelles sont les différentes industries qu'il y a sur ce marché-là qui est hyper, hyper niché. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Et du coup, moi, ça me permet de m'améliorer également, de mieux connaître effectivement mon marché, de mieux connaître les personnes avec qui je collabore, mais aussi de pouvoir élargir mon champ de vision et apprendre davantage, améliorer ma culture G, quoi, m'intéresser à plus de choses. Et c'est hyper intéressant, justement.
Et donc, du coup, grâce à ça, tu t'es dit, ouais, j'ai envie de faire de la vente.
C'était assez pas inné, parce que ce serait prétentieux de le dire, mais c'était quelque chose qui était assez facile, dans le sens où j'arrive facilement à connecter avec les gens, ou à pas connecter avec les gens aussi, je suis très fort, dans les deux cas. Et pour moi, c'était quelque chose d'inné, mais j'arrivais pas, si tu veux, à mettre un mot dessus, un doigt dessus, et je me dis, mais tout le monde sait le faire, en fait. Il n'y a rien de fou furieux. Et en fait, c'est en réfléchissant, notamment avec Pierre-Michel, sur les méthodes de vente, qu'on s'est aperçu que finalement, c'était pas si inné que ça, qu'il n'y avait pas tant de très bons vendeurs que ça, et que par contre, ce serait très intéressant de pouvoir justement partager ses connaissances auprès de l'ensemble des personnes qui sont fans de la vente ou en tout cas qui s'intéressent de près aux techniques de vente pour pouvoir leur permettre justement de s'améliorer et de pouvoir également un peu rester dans le game. Parce que les techniques de vente de 1990, 2000, même 2010, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, quoi.
Ouais, non, c'est clair. Et du coup, c'est ça qui t'a donné envie de fonder Dreamcatcher Sales.
Alors
avec
oui, effectivement, on a fondé avec Corentine, Pierre-Michel et moi Dreamcatcher Sales dans cette optique, c'est-à-dire comment remettre le commercial au cœur de l'entreprise et comment changer cette image de marque que peuvent avoir justement les collaborateurs du commercial. Genre aujourd'hui, il y a une tonne de collaborateurs ou de gens, peut-être parmi ces gens qui nous écoutent, qui pensent que le commercial est une personne qui a les dents longues, qui est prêt à vendre son père et sa mère pour faire ses coms à la fin du mois. En réalité, c'est fini ça. Ou ceux qui sont encore comme ça, ils sont voués à disparaître. Genre par une sélection naturelle en fait, parce que le marché n'accepte plus ce genre de démarche. Le marché aujourd'hui est vraiment sur une approche qualitative et plutôt sur une approche de conseil et sur effectivement une vente pérenne et pas une vente one shot. Après, encore une fois, ça dépend des produits, des solutions qu'il y a à vendre. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le côté pushy est de moins en moins apprécié, quelle que soit la cible.
Ouais, c'est sûr. Ça me fait penser à ce que tu dis. J'en avais parlé avec mes précédents invités qui disaient qu'ils avaient du mal parce qu'ils avaient monté des startups et que eux, justement, ils avaient du mal à trouver des bons commerciaux ou qu'il y avait de plus en plus d'écoles ou même d'élèves d'école qui voulaient pas être commerciaux parce qu'en fait, on a une image assez mauvaise du commercial. Quoi.
Ouais, c'est ça, effectivement. Alors aujourd'hui, il faut savoir que les métiers de commerciaux sont parmi les métiers les plus en tension en France et souvent, parfois même les développeurs. Parfois devant les développeurs, pardon. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, tu peux trouver 50 000 commerciaux, mais parmi ces 50 000 commerciaux, il y en a très, très, très peu qui sont bons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bullshitters, où il y a beaucoup de gens qui savent très bien parler, et il n'y en a pas tant que ça qui ont des bonnes techniques de vente. Nous, par exemple, pour donner un ratio, quand on présente une personne à un client, on a vu 12 avant. C'est le ratio qu'on a en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on veut des personnes qui ont aussi bien des hard skills, donc des compétences commerciales qui peuvent être savoir prospecter, savoir qualifier un besoin, savoir faire de négociations à haute valeur ajoutée, savoir faire de la vente complexe, savoir vendre à des grands groupes. Ça, c'est des hard skills, d'accord ? Donc des compétences, savoir-faire, et que des soft skills. Soft skills, c'est le savoir-être. Et ça, c'est plus compliqué parce que dans le savoir-être, en fait, tu dois aussi bien concevoir les compétences de la personne que tu as en face de toi toute seule face à son marché qu'au sein d'une équipe. C'est ça le plus important. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'objectif est de pouvoir effectivement renforcer une équipe commerciale et la souder pour aller justement évangéliser une solution ou justement taper des nouvelles parts de marché.
Mais toi, tu penses que ça vient d'où que les commerciaux, ils ne sont pas forcément formés
Alors, c'est une bonne question. Je suis un peu d'accord effectivement avec ces entrepreneurs, avec les gens que tu as vus avant. Il y a très peu, il n'y a aucune école en fait de vente à part entière qui va expliquer ce que c'est la vente d'un point de vue pratique. D'accord, parce que le théorique, c'est très intéressant, c'est bien, mais la pratique, c'est beaucoup mieux. C'est là, encore une fois, market never lies, hein, le marché ne ment pas. C'est en testant tes compétences que tu t'améliores. Ce n'est pas avec des super slides. Donc, ce n'est pas avec un PowerPoint que tu vas t'améliorer. Et j'aime bien, moi, la métaphore de Mathieu Fargette, qui est le head of sales de Carros et l'ancien head of sales de Compass, qui dit qu'en fait, pour devenir un bon commercial, c'est pour quand même devenir un bon pilote, il faut enchaîner les aires de vol. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut pas devenir, en fait, on peut pas aller faire de la vente complexe auprès d'un grand compte avec une formation qui dure entre 3 et 9 semaines. Non, on peut pas. C'est impossible. Si on n'a aucune expérience en sales avant, c'est impossible. Parce qu'il y a une verbatim à avoir, il y a des process à connaître. Il y a 50 000 techniques de vente pour pouvoir approcher un grand compte et notamment ne pas mentir. Et aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup d'écoles de vente, on apprend à mentir. Mentir, ça va être « Ah, bah, on avait rendez-vous ensemble. » Non, on n'a jamais eu rendez-vous ensemble. Je teste les deux derniers numéros pour taper quelqu'un qui n'est pas la bonne personne et je demande de faire une intro. Ok, c'est du mensonge. Nous, aujourd'hui, on est contre ça et on pense que justement, il y a d'autres techniques. Donc, je ne pourrais pas bien évidemment tout dévoiler aujourd'hui, mais il y a d'autres techniques, notamment sur de la prospection, qui permettent de faire du warm calling, d'avoir assez d'informations sur justement une cible, un interlocuteur qu'on veut appeler, avant même de l'appeler, pour pouvoir justement s'assurer de connecter le plus favorablement avec lui et d'enchaîner sur un rendez-vous physique sans même parler justement ni tarif, ni de on avait potentiellement rendez-vous ensemble, ni rien, mais juste de son besoin.
Ouais, donc toi, t'es un peu d'accord, il n'y a pas d'école qui nous forme à devenir vendeur ?
Non, il n'y a pas d'école, mais il y a des très bonnes entreprises qui le font. Depuis maintenant à peu près un an, il y a des mini-formations qui sont sorties. Je pense à Rocket School, à Human School notamment. Et je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien parce que justement, ça montre que potentiellement, on peut avoir les rudiments du commercial. Maintenant, encore une fois... Genre, j'ai pas fait cette école-là, donc je peux pas les juger. Mais je trouve que c'est une très bonne chose qu'elles existent, en tout cas. Je ne pense pas, en tout cas, qu'en sortant de ces formations-là, on puisse aller voir un directeur marketing et faire un deal à 200 000 euros.
Non, c'est clair. De toute façon, il faut de la pratique. C'est ce que.
Exactement. Mais en tout cas, ça donne effectivement les bases. Et après, par contre, dès qu'on a ces bases-là, il faut les consolider. Et il faut les consolider après, effectivement, avec une bonne équipe commerciale, avec un bon manager, avec une société qui a des fortes ambitions, qui a des responsabilités et qui va coacher également ce commercial junior pour le faire monter en compétences, le responsabiliser davantage et lui permettre de devenir autonome en 6 mois, en 1 an, en 2 ans. Et le faire passer par exemple, de SDR, qui est la prise de rendez-vous qualifiée, à un compte exécutif en 6 mois, en 8 mois, en 1 an, avec un onboarding qui est personnalisé.
Ouais, en plus, je trouve ça assez bizarre qu'il n'y ait pas... Maintenant, il y a des nouvelles écoles, c'est ce que tu dis, mais j'ai l'impression, dans une entreprise, pour moi, le commercial, les commerciaux, c'est un peu ce qui est peut-être pas le plus important, mais on va dire quand même une pierre hyper importante parce que c'est la personne qui est censée vendre le produit, l'entreprise, quoi. Donc, c'est un peu bizarre qu'il n'y ait pas eu de formation ou même que les jeunes, ils n'aient plus très envie d'être commerciaux et tout parce qu'il y a cette image derrière, quoi.
Pour moi, il y a deux choses qui sont à l'origine, justement, effectivement, de ce sentiment-là. La première, c'est que on n'a pas valorisé encore assez le métier de commercial, aussi bien à l'école. À l'école, vous allez dans n'importe quelle école de commerce, dans la plupart, vous leur dites c'est quoi le métier d'un commercial. Les mecs, ils ont encore l'image de Jean-Claude Convenant, quoi. Le gars avec sa petite mallette, là, qui boit son verre de rouge à midi, bedonnant, qui va dealer sur le coin de la table un truc un peu en loose day, quoi. Mais en fait, c'est tout sauf ça, et encore moins dans le digital. Aujourd'hui, en fait, un commercial dans le secteur notamment de l'IT, c'est quelqu'un qui est hyper technique, aussi bien par rapport en fait à ce qu'il doit vendre que à la gestion de son cycle de vente. C'est hyper processé, avec bien évidemment une dose d'empathie qui est propre à chaque commercial pour pouvoir justement rassurer, comprendre le client et pérenniser une relation commerciale. C'est indispensable. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, en fait, c'est que malheureusement, en entreprise, il y a de moins en moins de personnes qui sont aptes à pouvoir former les petits juniors. parce que ben, eux, ils font plus de, prospection depuis des lustres, parce que eux, ben, ils pensent que la prospection, c'est has-been. Et encore une fois, on ne parle pas de cold calling, là, on parle de la prospection, juste décrocher son téléphone et prendre un rendez-vous téléphonique avec une personne qui a un besoin qualifié. Donc, c'est pas je te donne un bottin et tu descends ligne par ligne en mode abattage. Là, c'est quelque chose de qualifié. Mais c'est juste qu'en fait, il y a dans très peu de boîtes, encore, il y a cette dynamique de dire « Ok, ben, j'y vais, je prends mon téléphone, je prends rendez-vous. » Maintenant, il y a dans beaucoup de boîtes, c'est « Non, non, il faut faire beaucoup d'inbound, genre, il faut envoyer des mails à balle, faut aller que sur LinkedIn, faut, bon, on ne va pas déranger les gens. » Mais en fait, tu ne déranges pas les gens. Si tu as quelque chose à proposer qui a une forte valeur ajoutée et que tu arrives à proposer un ROI à la personne en face de toi, alors je t'assure que tu ne la déranges pas.
Non, non, c'est clair. Et donc, soit, enfin, vous, c'est un peu ces deux choses que vous essayez de changer avec Dreamcatcher.
Alors, Sales. Exactement. Nous, c'est vraiment ce qu'on veut changer. C'est-à-dire que nous, notre objectif en interne, à travers effectivement les formations Dreamcatcher Sales, chaque consultant a une demi-journée de formation en interne chez nous, qui est une formation qui est théorique et pratique. Ça veut dire que, par exemple, on va pouvoir faire une formation sur comment prospecter en soft selling. D'accord, donc on va voir tous les process justement pour pouvoir avoir des maximums de rendez-vous qualifiés en un minimum de temps. Je ne peux pas t'en dire plus, bien évidemment. Et derrière, on va avoir un atelier Call Me I'm Famous où justement on va aller appeler un après l'autre, justement les différentes cibles qu'on peut avoir, les différents interlocuteurs qu'on peut avoir. On va débattre de ce qui a été, ce qui n'a pas été, peu importe en fait s'il y a eu un résultat ou pas. L'objectif étant d'être dans l'amélioration continue et de pouvoir se tirer vers le haut. Et tout ça en fait, c'est des formations et des ateliers qui sont issus du DCS Labs, qui est le laboratoire en fait, commercial interne à Dreamcatcher, où on teste des nouveaux outils en permanence, on teste des nouvelles techniques de vente sur l'ensemble du cycle, hein, aussi bien en prospection, en négociation, en closing, en qualification, peu importe, en fidélisation, en plein de choses. Et on partage ces connaissances effectivement en interne. Et là, depuis peu, bah, on a ouvert effectivement ces formations à nos clients. Et justement, bah, on partage le savoir-faire à l'extérieur, toujours dans cette optique d'évangélisation. Mais avant d'ouvrir ces formations-là, on a voulu d'abord, pendant une année, les tester en interne, voir les résultats. Et qui mieux que nous pour voir les résultats, puisque genre, on est directement en relation et avec nos consultants, avec nos clients. Donc on peut tout de suite mesurer en fait, le ROI de chaque formation sur sa mission, l'améliorer. Maintenant, on a tout un plan de formation qu'on partage justement avec nos clients, pour justement faire monter en compétence leurs commerciaux. Et eux continueront à partager justement ces connaissances auprès des juniors. Et c'est comme ça qu'on va justement bah, boucler la boucle et rendre des commerciaux qui finalement ont des bases en super commerciaux.
Bah oui, parce que ce que tu disais, c'est que les anciens commerciaux, ça fait 10-20 ans qu'ils font ça. Ils ne sont pas à jour en termes de ce qu'on fait pour la prospection, ce genre de choses. Alors vous les remettez un peu à jour?
En fait, on enlève les images qu'on peut avoir, des images qui sont souvent négatives, qui sont souvent fausses, surtout sur la prospection notamment, mais également sur les grands comptes, également sur les PME, également sur les phases de qualification, en fait sur plein de choses. Faites l'image où les gens disent non, aucun rapport, ça on fait pas, ou par exemple effectivement, là je parle beaucoup de prospection parce que la prospection c'est un peu la bête noire des commerciaux, mais en réalité c'est un kiff. En réalité, genre je pense que j'ai jamais autant appris d'informations sur mon marché et sur les différents secteurs avec lesquels on travaille qu'en prospectant, parce qu'encore une fois, business is a game. Et en fait, chaque fois que j'appelais quelqu'un, c'est juste un jeu. C'est juste un jeu. Et en fait, vu qu'on est dans cet état d'esprit-là, y a rien à craindre. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien.
Ouais, c'est comme ça, t'as un peu moins peur et la fois d'après, tu feras mieux. Et
exactement, exactement. En fait, c'est comme les mecs qui sautent en parachute. Hein. La première fois que tu sautes en parachute, tu te pisses dessus. La deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, ça va, tu vois. Genre, t'as l'habitude. Ça devient en fait un mécanisme qui se met en route et du coup, tu sautes et ça devient. C'est du plaisir. À la limite, t'as qu'une envie, c'est remonter. Ça me rappelle, moi, je déteste les attractions, genre les montagnes russes, tout ça. Je déteste ça. Et j'ai jamais compris. Les mecs qui refaisaient la queue une heure pour refaire l'attraction où tu flippes ta race et qui dure 30 secondes. Mais en fait, je le comprends. Parce qu'en fait, ça devient addictif. C'est pareil pour le call. C'est addictif, en fait.
Comment ça se passe exactement chez Dreamcatcher Sales? Enfin, tu l'as dit au début, mais j'aimerais bien que tu le rappelles. En gros, vous embauchez des commerciaux, ce que tu appelles vos consultants, et après que vous envoyez chez des clients pour une certaine durée, c'est ça?
Alors déjà, aujourd'hui, il faut juste expliquer le marché. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a de moins en moins de commerciaux, de bons commerciaux. Donc du coup, en fait, on a un vrai problème qui est on a plus de challenges, qui sont des challenges de nos clients, que de consultants. Mmh. D'accord. Donc effectivement, notre rôle à nous, c'est d'aller chercher déjà, de bien comprendre quel est le besoin de nos clients. Ça veut dire que, par exemple, il y a des clients qui peuvent venir en disant « je veux un directeur commercial », mais en réalité, ce n'est pas ce qu'ils ont besoin. Donc avant tout, on a cette approche de conseil. D'ailleurs, de dire, OK, quel est ton marché? Quelle est ta boîte? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Quels sont tes chiffres? Quels sont tes objectifs commerciaux? Comment on va designer ta force commerciale? Et comment on va designer dans le temps? Donc, ça se trouve, tu n'as pas besoin d'avoir un head of sales aujourd'hui par rapport à tes objectifs. Donc, on va recalibrer tout ça. L'objectif étant de pouvoir mettre la bonne personne au bon moment pour avoir le maximum de retour sur investissement le plus vite possible. D'accord? C'est toujours pareil. Hein. Et ce qui est bien avec des commerciaux, c'est qu'un bon commercial peut être un levier de croissance très rapide. Et un mauvais commercial peut être un gouffre financier très rapide également. D'où l'intérêt de passer par des gens de confiance. Donc notre rôle à nous, c'est de pouvoir déjà, un, comprendre quelles sont les attentes de nos clients et ensuite, quel est l'ADN de nos clients. Et c'est ça le plus compliqué, parce qu'une fois qu'on a les compétences, ça c'est une chose qui est faite, on a 50%. Mais l'ADN de la boîte, c'est autre chose. Parce qu'il faut garder à l'esprit que le commercial est celui qui va effectivement, tu l'as très bien dit tout à l'heure, représenter l'image de marque de ta société. Donc si, en fait, il n'a pas l'ADN de ta société, ça ne va pas te ressembler en fait. Et donc du coup, ça peut même détériorer ton image de marque. Et tu n'auras ni feedback, ni rien. Donc nous, notre rôle déjà, avant même de présenter quelqu'un, c'est de comprendre justement cet aspect sur les hard skills et les soft skills, les savoir-faire, les compétences et l'ADN de la société. Et ensuite, effectivement, on propose des candidats qui ont ces compétences-là et on les propose par rapport à, alors en fait, qu'on les a déjà vus, qu'on a déjà pris leurs références, qu'on connaît leurs métriques, qu'on les a rencontrés bien évidemment, et ensuite qu'on les a coachés pour pouvoir effectivement les présenter à nos clients. Et ensuite, c'est pas fini. Ça, c'est genre 30% de notre travail. Et en fait, les 70%, c'est qu'on va accompagner notre client et notre consultant à la réussite du challenge. C'est là tout en fait l'intérêt de Dreamcatcher Sales. C'est là en fait où on a vraiment concentré notre énergie, c'est dans l'agence. L'agence Dreamcatcher Sales, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va accompagner un consultant dans la réussite de sa mission. Et on va permettre à notre client de pouvoir avoir effectivement cette rentabilité escomptée et l'atteinte de ses objectifs. Et surtout, en fait, d'avoir une personne qui est compétente à ses côtés avec un tiers de confiance, puisque à travers les formations qu'on donne, à travers les conseils qu'on donne à nos clients, on s'assure qu'effectivement, la mission, elle perdure, qu'elle soit pérenne.
Ok, c'est super clair. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous essayez de faire matcher, on va dire, un profil et un client, quoi. Et après, accompagner cette relation sur le long terme.
Alors, on n'est pas Tinder, mais c'est beaucoup d'humains, par contre, c'est vrai. C'est-à-dire que oui, on essaye effectivement de faire matcher, dans un premier temps, au niveau des valeurs communes et des compétences de nos consultants. Mais derrière, c'est une relation sur le long terme. Et dans beaucoup de sociétés avec lesquelles on travaille, il y a peu ou pas de directeurs commerciaux, ou peu ou pas de personnes qui sont habilitées à pouvoir manager des commerciaux. Qui plus est, tous nos commerciaux à nous sont des chasseurs. Donc ça veut dire que si tu n'as jamais chassé avant, ça va être compliqué. Et nous, vu qu'ici on est tous des chasseurs, on a justement cette habilité de pouvoir piloter et s'assurer qu'on va tous dans le bon sens.
Ok, ça marche. Et du coup, là, ce que tu disais, c'est que ça fait 5 ans que vous avez...
C'est ça, ouais.
Du coup, vous en êtes où aujourd'hui? Comment ça marche? Vous êtes combien? Enfin, en interne ou en consultant?
Aujourd'hui, on a plus de 100 consultants. On a travaillé avec plus de 300 clients. On a plus de 80% de nos consultants qui se font recruter par nos clients, puisque c'est de la régie pré-embauche. Nos clients peuvent recruter nos consultants. Cette année, on va être 24, normalement. Là, on est 15. On sera 24 en 2020, normalement, au sein de Dreamcatcher Sales. On prend toujours autant de plaisir, voire plus. Et on est toujours sur le terrain. C'est hyper important pour chacun de nous d'être toujours sur le terrain. En fait, il n'y a pas une personne chez nous qui ne fait pas du commercial. Même la comptabilité fait du commercial. C'est-à-dire que chez nous, c'est hyper important d'avoir cette fibre commerciale chez nous et cette fibre commerciale en soft selling. Hyper important.
Et du coup, je t'ai même pas demandé, mais toi, parce que c'était pas forcément ta formation, comment t'as réussi à te former à la vente? C'est sur le tas, c'est quoi?
Ouais, je pense, ouais. Alors au début, sur le tas, c'est-à-dire que je pense que j'avais des connexions innées. En fait, j'avais pas de mécanisme, je comprenais pas les mécanismes, et il y avait, enfin, parfois ça marchait, parfois ça marchait pas. Et après, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup formé, j'ai énormément parlé avec des mentors qui, eux, ont une expérience de plus de 20 ans en sales et qui sont toujours à la page, et j'ai appris. Et j'ai appris en fait en testant, tu vois, c'est en s'améliorant en continu et tous les jours que tu arrives à t'améliorer. Et celui qui dit « moi, j'ai pas besoin de formation », c'est qu'il est déjà mort.
Non, c'est clair et c'est hyper marrant parce qu'on en a pas parlé, mais ce que tu me disais la dernière fois quand on s'est eu au téléphone, c'est que, en fait, vu que tu voulais continuer dans le sales, ce que tu as fait, c'est que tu t'es formé chez un fleuriste et dans un restaurant pour apprendre à mieux vendre. Mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, c'est pour te confronter vraiment au terrain et apprendre de toutes les techniques dans des univers hyper différents. C'est super marrant.
Ouais, c'est marrant que t'en reparles.
Tu voulais pas en parler, c'est
non,
ça ?
Non, je m'en fous, au contraire. Je suis fier de tout mon parcours et de chaque chose que je fais. En tout cas, je regrette jamais rien. Effectivement, en fait, après Good Morning, une fois qu'effectivement on a commencé à réfléchir à créer une société autour du sales, j'avais pas la légitimité, en fait, de pouvoir le faire, en fait, parce que... Déjà, un, je le faisais sans connaître les techniques et je déteste les choses qui sont, entre guillemets, à l'arrache. Genre, j'aime bien les choses qui sont bien carrées, bien processées. Merci Pierre-Michel Couturier de m'avoir enseigné tout ça. C'est un de mes associés qui, justement, lui est un pro là-dessus. Et en fait, il me manquait deux choses que je ne connaissais pas du tout parce que je n'avais jamais fait. Le close selling. Donc, le close selling, c'est ce qu'on appelle la vente rapprochée. C'est de la vente directe en termes de temps, imminente, tu vois. Et le cross selling. Et en fait, pour m'améliorer, par exemple, pour le close selling, je me suis dit, OK, comment, en fait, toujours dans cette démarche de test and learn et toujours dans l'opérationnel et pas forcément que écouter des podcasts ou que voir des vidéos ou que machin, mais le tester en vrai et se l'approprier. Je me suis dit, OK, ben, comment je peux améliorer mon close selling ? Petite réflexion à la con, comment ça arrivait ? Je me suis dit, bon, ben, dans un call center pour vendre du canal, je me suis dit, franchement, ça va me saouler. Genre, je ne me vois pas du tout dans un call center. OK, porte-à-porte pour vendre des aspirateurs ? Non, pareil, ça va me saouler. Et j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, mais en fait, chez un fleuriste. Un fleuriste, 100% des mecs qui passent le pas de la porte, c'est des mecs qui vont acheter des fleurs. Et donc du coup, en fait, j'ai fait fleuriste pendant 6 mois avec pour objectif, en fait, de 1, raccourcir le cycle de vente, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre en 15 minutes, je devais vendre en 10 minutes, ok, et je devais surtout expliquer à 2 autres salariés comment je faisais. C'est ça le plus complexe, en fait. Donc ça m'a obligé à matérialiser la technique de vente en close selling et de pouvoir l'adapter au marché justement de la fleur. Ça, c'est pour la... Donc, ça m'a pris 6 mois et effectivement, j'ai fait barman pendant 6 mois. Pourquoi barman ? Pour le cross-selling, en fait, quand tu sais vendre un verre de vin, tu sais vendre une planche de fromage et vice-versa, et tu sais le faire sur tout le bar. Et surtout, en fait, tu avais aussi une capacité à pouvoir garder une connexion avec chaque mec qui est autour du bar tout en switchant, donc en passant de l'un à l'autre et en lui refaisant du cross-selling au passage. Donc c'est comme ça que j'ai appris en 6 mois le cross-selling. Ouais. Et mon objectif c'était de monter de, je crois, je sais plus, de 17% le chiffre d'affaires du bar par mois. Et j'avais réussi.
Ok, bah super. Bah, non mais c'est hyper intéressant. C'est ce que tu dis depuis le début, c'est que de toute façon, qu'on soit commercial ou autre, de toute façon, c'est qu'il faut se former sur le terrain, quoi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc toi, c'est quelque chose que tu t'es appliqué à toi-même, quoi. Donc je trouve ça trop bien.
On dit souvent les cordonniers sont les moins bien chaussés, mais j'essaye de, en tout cas par rapport à notre métier et surtout les valeurs qu'on veut inculquer, de se donner comme objectif et comme valeur de toujours faire, de tester, de vérifier, de valider, d'améliorer avant de transmettre. Et d'où encore une fois le fait qu'on a proposé des formations que maintenant, alors que ça fait plus d'un an qu'on les fait en interne. Parce que justement, on ne va pas proposer un truc bullshit où on dit qu'on sait faire alors que la moitié des trucs, c'est peut-être, mais on n'est pas sûr. Non, non. Et heureusement, parce qu'il y a plein de choses qu'on disait qui se sont avérées pas forcément vraies, qu'on a dû adapter, améliorer pour que maintenant, justement, ce soit vraiment en adéquation avec les techniques du marché, avec les besoins du marché, avec le vrai, quoi, tu vois.
Ouais, et puis je pense que vous mettez peut-être aussi 2 fois plus d'efforts à faire ça parce que vous voulez renverser l'image du commercial qui blablate un peu ou qui est un peu charlatan. Donc vous devez vous assurer que en fait vous avez tout testé, que vous êtes sûr que ce que vous vendez, enfin ce que vous vendez ou ce que vous apprenez à vos consultants, ce soit, enfin ça marche quoi, que ce soit pas des
exactement. Du bullshit, et surtout en fait on essaye de faire pour nos consultants en interne ce qu'on appelle des formations par secteur d'activité, c'est-à-dire que soit sous forme de meet-up, ça veut dire que par exemple on va regrouper 4-5 SDR, donc SDR c'est Sales Development Representative, concrètement des gens qui vont faire de la prospection pour la prise de rendez-vous qualifié, autour d'une table avec un expert dans le domaine sur le retail et sur ce métier-là, pour pouvoir échanger leurs best practices, leurs bonnes pratiques, pardon, et tirer tout le monde vers le haut. Et donc du coup, en fait, c'est là que tu te rends compte que chacun a ses petites recettes, tu vois, qui marchent dans ce domaine-là, et donc du coup, en fait, cumuler les uns aux autres, ça crée une vraie stratégie. Et c'est ça qui est intéressant.
Ouais, puis c'est ça aussi qui est intéressant dans le principe de l'agence, c'est que vous êtes un peu tous une grande équipe, même si les consultants sont un peu à droite à gauche chez les clients, c'est important aussi d'avoir
on
une ADN et de pouvoir partager.
On est hyper soudés, et pas que sur un groupe Slack, puisque on a mis du temps à choisir une CHO, donc une Chief Happiness Officer, et c'est pas qu'un mot chez nous, puisque c'est un de ses rôles, c'est de s'assurer qu'on est toujours en relation avec nos consultants sur le terrain. Même si c'est le travail de chaque agent a ses consultants avec qui justement il est tout le temps en relation, qui va coacher, qui va amener à se perfectionner, il y a également en renfort une CHO qui va s'assurer que tout se passe bien, que le client est content, que le consultant se sent bien, que Dreamcatcher Sales, en tant qu'agence, a bien fait son travail et surtout qui va demander comment on peut s'améliorer. On est toujours dans cette quête d'amélioration continue chez nous. C'est également une valeur très, très forte. C'est le brace yourself. C'est comment je vais pouvoir m'affiner, comment je vais pouvoir encore mieux aiguiser. Il faut qu'on soit vraiment le fleuron. Et pour ça, il faut te remettre en question en permanence. Ce que je dis tous les jours, c'est en fait, le monde, il avance. Si tu n'avances pas, tu recules. Donc, tu dois avancer.
Ouais, non, c'est clair. Donc, vous essayez toujours d'être à la pointe. C'est bien. Et ça... Enfin, c'est des beaux objectifs dans le sens où ça donne l'énergie pour continuer d'avancer, quoi.
Exact. Et on se donne des objectifs qui ne sont pas irréalisables puisque notre objectif également, c'est de fonctionner étape par étape. On préfère aller lentement, mais sûrement. Et quand on fait quelque chose, on le fait à fond et on le fait bien.
Et du coup, pour revenir un petit peu à toi, c'est quoi ton rôle? Parce que vous êtes trois, du coup, est-ce que vous êtes répartis les rôles? Toi, tu fais quoi exactement? Ou est-ce que vous faites un peu tous les trois?
Alors, on est tous... On a trois rôles. On n'a pas vraiment des rôles. En réalité, on est tous des... on fait tous du sales, comme j'expliquais tout à l'heure. Après, c'est vrai que Corentine Bern s'occupe un petit peu plus de toute la partie RH avec le pôle sourcing chez nous, donc les talent managers, qui, eux, vont identifier les talents sur le marché, toutes les personnes qui sont à la recherche d'un nouveau challenge, qui va les rencontrer. Et donc, elle améliore tout ce sourcing-là, mais également, elle est également garante de l'expérience client et l'expérience candidat, qui est très, 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 très importante chez Dreamcatcher Sales. On veut que les gens qui passent le pas de la porte chez nous se sentent comme chez eux. On est vraiment intransigeant là-dessus et ça va encore s'améliorer au fur et à mesure, au fil des mois. À partir de janvier, il y aura encore des nouvelles surprises, je ne vais pas en dire plus. Pierre-Michel, lui aussi, il fait du sales comme tout le monde. Il s'occupe beaucoup de la stratégie, la vision de Dreamcatcher Sales également, de toute la partie financière aussi, mais aussi sur du market, sur plein de choses. Il est vraiment sur différents sujets. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est lui qui a trouvé le positionnement justement sur lequel on est actuellement. Et c'est lui qui a beaucoup la vision de Dreamcatcher Sales qui la partage. Il est très fort là-dessus, il a toujours un
temps d'avance.
Toujours un temps d'avance. Et c'est vrai que c'est grâce à lui beaucoup qu'on gagne beaucoup de temps. Et moi je suis très très sur le sales.
Okay.
moi je suis un peu genre, Pierre-Michel dit toujours, genre, c'est, genre j'ai de la chance d'être là-dessus, mais je pense que tout le monde a de la chance d'être chez nous. Moi je gère que le sales, c'est-à-dire que je vais gérer un peu les partenariats. Je suis bien évidemment tous les jours sur le terrain, j'ai mes propres clients et heureusement, genre j'adore ça et sans ça en fait j'aurais même pas la légitimité de pouvoir faire ce qu'on fait aujourd'hui. Je travaille aussi beaucoup sur la stratégie commerciale et beaucoup également avec les équipes au quotidien pour les coacher, leur mettre un coup de boost, leur donner les points d'amélioration et travailler avec eux justement sur des nouveaux comptes. Voilà, mais moi c'est plus ma partie, elle est plutôt sur le sales et un peu le market.
Ok, ça marche. Non mais vous avez bien trouvé des fonctions et des rôles un
et
peu
on est
complémentaires.
Tous complémentaires, c'est... ouais. C'est Dreamcatcher Sales, c'est vraiment justement au niveau de cette association, c'est vraiment en fait un capitaine à trois têtes. Et Dieu merci, on s'entend super bien, on connaît vraiment bien nos zones entre guillemets de travail pour effectivement éviter qu'on perde du temps à se marcher dessus parce que time is money.
Ok, ça marche. Et pour revenir un petit peu à Good Morning, quand tu disais que en fait t'as un peu quitté parce que déjà t'avais fait le tour du boulot et que en plus c'était un peu éprouvant par rapport aux horaires et que tu pouvais pas, on va dire, avoir une vie normale. Aujourd'hui, en étant co-associé, co-fondateur de Dreamcatcher Sales, t'arrives à avoir une vie un peu plus réglée, t'arrives à avoir du temps pour toi. Comment tu fais ?
Alors déjà, personnellement, c'est pas du tout pareil puisque genre je suis marié avec une petite princesse qui est ma fille. Donc du coup, j'ai pas les mêmes horaires et c'est pour ça qu'aujourd'hui je pourrais pas me lever à 6h. En fait, si je me lève à 6h30 parce que ma fille me réveille,
ouais.
Mais pas pour aller travailler. Oui, en fait, oui. En fait, oui, genre, j'ai la même implication au travail. Par rapport à l'association, c'est un vrai bonheur parce que, pareil, quand tu pars en vacances, tu sais que ben, dans tous les cas, tu n'as pas de souci à te faire parce que c'est géré déjà par les collaborateurs. Mais en plus de ça, ben, s'il y a des décisions stratégiques à prendre, des décisions qui peuvent être importantes, il y a toujours au moins un ou deux associés qui sont au bureau. Ça, c'est hyper important et c'est vrai que pouvoir se reposer sur cette association, c'est un vrai bonheur. Et surtout, pouvoir se reposer sur son équipe en général, c'est un vrai bonheur. Ensuite, d'un point de vue perso, moi, j'ai scindé mon temps en trois. Pro, perso et extra. Pro, c'est à peu près, j'ai envie de dire, 70%, voire un petit peu plus de mon temps. Déjà, un, je vis Dreamcatcher Sales et puis que genre, je suis tout le temps au bureau et j'adore, c'est un kiff. Après, ben, perso, c'est ta vie perso avec toi, ta famille, l'éducation de tes enfants, des sorties en famille. Et extra, c'est toi et toi. Et ça, c'est très important d'être toi et toi. C'est-à-dire, qu'est-ce que toi te fait plaisir ? Comment tu fais pour te retrouver avec toi-même? Il y a beaucoup de gens qui font de la méditation, moi j'en fais pas. Moi je me suis mis au sport, j'ai pris un coach sportif. Là je suis inscrit dans une salle de sport également. Quelque chose qui me défoule et c'est des moments que tu as pour toi, tu vois. Mais ça peut être également un truc tout bête, mais ça peut être, c'est débile, hein. Mais genre le fait de dire ok, je vais prendre rendez-vous chez plusieurs médecins pour prendre soin de moi, faire des check-ups, tout ça, ben c'est toi et toi. Et en fait, si tu prends pas ce temps-là, personne te le donnera et encore moins ta boîte. Ta boîte, elle n'est pas là pour de te donner du temps. Donc, c'est à toi de prendre ce temps-là sans mettre en danger ta boîte. Et ça, c'est très important parce que sinon, en fait, c'est ce qui va emmener vers le burn-out, qui plus est dans une boîte qui est en hyper-croissance.
Ouais, et puis c'est ce que tu disais, toi, chez Good Morning, tu avais tellement la tête dans le guidon qu'en fait, tu n'arrivais pas à prendre du recul sur ce que tu voulais faire, sur ce que tu aimais, tu étais juste là et t'exécutais. Alors que là, les moments avec toi-même, comme tu dis, ça te permet aussi de te dire « Ah bah voilà... Là, j'aime bien ce que je fais, ou là, bah, peut-être que je pourrais faire autrement. Enfin, ça permet aussi, toi, de te remettre en question et de remettre en question ce que tu fais au jour le jour, quoi.
Exactement, c'est prendre de la hauteur sur toi, prendre de la hauteur sur tes journées, prendre de la hauteur sur ta vie en général, qu'elle soit pro et perso, et faire le point, en fait, tu vois. Et si tu ne fais pas ce point-là, bah, y a un moment en fait, où c'est malheureux. Hein, et je le vois, on le voit tous les jours. En fait, quand tu te bats dans les roues, tu vois le regard des gens parfois un peu dans le vide ou trop sur leur téléphone, peu importe. Et bah, en fait, tu sens qu'il y a un mur en face. Tu vois ce que je veux dire? Mais le problème, c'est que le mur, en fait, ils ont tellement en tête dans le guidon que tu ne le vois pas. Mais moi, le premier, en fait, quand j'étais chez Good Morning, j'avais le mur en face de moi. Mais genre, j'étais tellement en fait, plongé dans le boulot que je ne voyais pas. Donc seulement il y a un moment où tu dis bon bah en fait mec tu vas péter un câble, c'est sûr que tu vas imploser et ça c'est pas possible en fait, encore moins quand t'es entrepreneur parce que t'as des responsabilités et donc du coup tu peux pas imploser, tu peux pas genre dire ok je lâche tout, je livre pas mes clients aujourd'hui et tous vous faire enculer tu vois genre et dire à tes salariés je viens pas aujourd'hui, non bah non mec, genre non t'es un capitaine. Donc tu te lèves, t'y vas, tu serres les dents et t'y vas. Moi quand j'ai commencé vraiment à me dire ok là c'est trop, j'ai dit ok c'est bon, je suis plus dans le même esprit qu'au début, je veux changer et j'ai changé, c'est tout.
Non mais je trouve ça hyper intéressant cette répartition de ton temps, boulot, perso et extra, parce que je pense que les trois sont hyper, hyper importants. Enfin, ça revient à ce que tu dis aussi, c'est hyper important tu vois, d'avoir une vie saine, de faire attention pour avoir de l'énergie. Et en fait c'est tout un cercle, un tout.
Ouais,
tout
après je suis pas en train de te dire que je suis vegan et que genre je bouffe des smoothies tous les matins, tu vois. Genre, mais c'est vrai que je fais attention à ce que je mange de plus en plus, je suis un bon vivant, j'adore tout ce qui est gastro, genre gastronomie, je suis fan, la bonne bouffe, qu'elle soit genre, j'adore, peu importe d'où elle vient, j'adore ça, donc du coup forcément, bah, c'est un impact sur mon poids, donc d'où le fait également de faire du sport, tu vois, ça me permet d'avoir bonne conscience, je vais pas aller faire la fête tous les soirs, mais parfois c'est bien de faire la fête également, tu vois, je suis pas non plus dans,
pas Ayatollah non
je suis pas
plus
psychologue rigide en mode tu te lèves à 6h du matin, tu lis un livre, tu médites, tu fais du sport, tu vas te doucher, une douche froide de préférence parce que ça te remet bien, tu manges des haricots verts, un œuf que tu gobes de préférence, et après un demi-avocat et tu vas travailler. Ben non mec, tu vois, parce que ça, là ma vie, ça va être compliqué, tu vois. Non, il faut juste faut adapter à qui tu es, à ce que tu veux et trouver un équilibre. Et le plus compliqué justement dans ce triptyque, c'est l'équilibre. C'est-à-dire en fait, trouver l'équilibre entre le pro, le perso et l'extra.
Et tu l'as trouvé, toi ?
Tu le cherches tout le temps. En fait, t'es jamais en équilibre. Tu le cherches en permanence et tu te débrouilles pour que ce soit le plus juste possible. Mais tu peux pas le trouver, genre, c'est impossible. Enfin, c'est possible, peut-être. Si tu penses que tu l'avoir trouvé, c'est que tu l'as déjà perdu, je pense.
Oui. Ok, ça marche. Et du coup, c'est quoi ? Enfin, je sais pas si t'en as, hein, mais c'est quoi tes objectifs pour la suite, là, avec Dreamcatcher Sales ?
En fait, honnêtement, genre, plus on est de fous, plus on rit. Et j'ai envie de me marrer de ouf. Et on a envie de grandir, en fait. Mm-hmm. On grandit, mais on grandit pas comme pourrait grandir une licorne. On n'est pas une licorne. On n'a pas vocation à le devenir, ni à l'être, peu importe. On veut grandir sereinement et de façon pérenne. On veut grandir en s'assurant que chaque étape qu'on fait, on l'a validée, on l'a clôturée. Et maintenant, on monte un peu, justement, un nouveau niveau. Ce qu'on a souvent comme image avec Pierre-Michel et Corentine, et même avec l'ensemble des collaborateurs, c'est vraiment l'Everest. À l'Everest, en fait, tu as plusieurs camps de base. Ben, c'est pareil, en fait. Notre objectif, c'est on va à un camp de base, on fait ce qu'on a à faire. On sait quand est-ce qu'on aura validé le camp de base avec tel objectif. On a fini, on reprend l'ascension. Et à chaque ascension, on sait que ça va être compliqué, on sait le prévoir, on sait prévoir les difficultés qu'on va avoir, on sait serrer les dents quand il faut serrer les dents, on sait se relâcher quand il faut se relâcher, on va jusqu'au prochain camp, voilà, c'est tout. Et pour l'instant, honnêtement, c'est ça, notre objectif, il est de continuer à grandir, continuer à s'amuser, continuer à partager cet amour du commercial et partager notre savoir-faire auprès du maximum de personnes qu'on peut, qui sont intéressées par ce sujet-là. et continuer vraiment à s'amuser. Vraiment, genre, c'est peut-être débile de dire ça, genre, on a envie de s'amuser, machin, tu vas me dire à Cariel, mais c'est du business, c'est du bullshit, mais je te jure que, genre, si on s'amusait pas, on serait plus là.
Ouais.
Genre, y a tellement d'intensité au sein de Dreamcatcher. Enfin, t'as dû le voir, genre, ça fuse de partout, c'est une fourmilière, quoi. Genre, les mecs, ils callent, ils marchent en parlant, il y a des gens qui viennent tout le temps. Donc, c'est cette émulsion-là qui est vivante. Genre, moi, en tout cas, personnellement, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, on se sent vivant. Genre, on se sent vivant et on se sent appartenir à une vision, à un challenge, à une mission, à une équipe. C'est ça qui est vraiment hyper intéressant et aujourd'hui, c'est ça qu'on a envie de continuer à partager, tu vois, en interne et en externe.
Ouais, non, c'est clair, c'est hyper fédérateur et puis en plus, ça vous permet de, bah, comme tu dis, de grossir mais sereinement avec une bonne équipe et tout en solidifiant ce que vous avez
on
déjà.
Exactement, on n'a aucune vocation à prendre 100 mecs l'année prochaine, même si on pourrait le faire, on n'a aucune vocation à le faire parce qu'on n'a pas la capacité de les onboarder correctement. Et nous, on est contre prendre 500 mecs et en virer 50. Nous, quand il y a un collaborateur qui vient chez nous, il sait pourquoi il vient.
Non, c'est clair, bah, c'est des très beaux objectifs, donc je te l'espère. Donc comme on arrive un peu à la fin de notre échange, j'aime bien poser ces dernières questions. Donc la première, c'est un peu sur ton retour d'expérience en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu as des conseils à donner à des gens qui ont envie de se lancer dans un projet qui leur donne envie, mais qui potentiellement soit n'osent pas, soit ont peur de ne pas y arriver, ou soit ne savent même pas comment commencer. Toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ?
Je vais d'abord donner une image. Et après, je donnerai un conseil. L'image, pour moi, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est un peu comme la traversée de la Manche. Quand tu es en France, à Calais, tu as tous tes proches autour de toi, machin, qui t'entourent, qui te disent « Ah, machin, c'est cool. » Et il y en a beaucoup d'ailleurs aussi qui disent « Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais n'importe quoi. » Mais moi, le premier, hein, mes parents n'ont jamais compris pourquoi j'entreprenais alors que j'avais une place en or chez Geodis. Mais si tu es assez fort et que tu crois vraiment à tes idées, que c'est tes vraies valeurs, que c'est tes tripes, et que t'as envie d'aller jusqu'au bout, alors en fait tu t'en fous, tu vois, genre tu passes, enfin ça passe vraiment, on s'en fout, ça a aucun intérêt. Et tu t'accroches vraiment à ta vision et t'y vas. Ensuite, t'as la traversée de la Manche. Là, t'es tout seul. C'est toi et ta merde. Généralement, les mecs, donc généralement quand t'as besoin d'aide, il y a peu de personnes qui sont là pour te venir en aide et c'est pas plus mal. Parce que c'est comme ça que t'apprends, c'est la résilience. Et les gens qui te critiquaient avant vont dire ah tu vois, je t'avais dit, ok, encore une fois, si tu crois en ton projet, alors accroche-toi et vas-y. Et quand t'arrives de l'autre côté, là, bizarrement, les mecs qui te crachaient dessus, bah tu vois, je t'avais dit, il fallait vraiment que t'y ailles, machin. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est ça. Si j'ai un conseil à donner, c'est n'écoute personne, écoute-toi, toi, et remets-toi en question tous les jours pour atteindre le but que tu t'es fixé. C'est ça, à mon avis, mon conseil.
Bah parfait. Non mais c'est un super bon conseil et une super belle image. J'arrive jamais à en faire moi, mais j'adore les anecdotes un peu imagées comme ça parce que ça donne bien sa image, le truc quoi. Donc on comprend mieux. Donc merci. Du coup, autre question, vu que mon podcast s'appelle Bonjour l'Inspi,
ouais.
Je voulais savoir si toi il y avait des choses qui t'inspirent et que tu pourrais partager avec moi et les auditeurs et qui pourraient potentiellement nous inspirer aussi.
Qui m'inspire dans quel sens ?
Bah franchement, ça peut être tout. Ça peut être un film où tu t'es dit waouh, ou des livres ou je sais pas, une série ou même des personnes. Enfin, je sais pas, c'est vraiment toi.
C'est marrant, genre, en fait, ça dépend. Genre, souvent, en fonction de mon mood, j'ai des films que j'aime bien voir. Qu'est-ce que j'aime bien voir ? Genre, alors, je suis pas trop Loup de Wall Street, même si je pense que beaucoup d'auditeurs disent, ouais, lui, c'est un sel de Loup de Wall Street. Justement, on n'est pas trop Loup de Wall Street parce que, genre, je pense qu'un mec qui scamme toute la journée, qui ment à ses clients, qui finalement finit ruiné, c'est peut-être pas, genre, la meilleure des images qu'on peut avoir du sales. Social Network. J'aime bien lorsque justement on finit une réunion de strat sur la vision. On n'est pas à vocation encore une fois de devenir une licorne, mais j'aime bien en fait ce côté en mode... j'aime bien le regarder, c'est inspirant, en mode ok, bah en fait, Mark Zuckerberg a gardé sa vision depuis le début, il a fait des fucks à tout le monde, et en fait, il a des valeurs qui sont hyper fortes en fait. Et il a dit ok, bah, j'y vais, quoi qu'il arrive, je m'en fous. Avoir des contre moi, je m'en fous, il y a des mecs qui me font un procès, je m'en fous. Genre, je vais jusqu'au bout, et en fait, quand tu regardes bien, c'est un jeu. Pour lui, c'est juste un jeu. En fait, il veut faire un fuck à la terre entière et c'est juste un game. Je suis pas anarchiste, hein, je vous rassure. Il y a ça. Qu'est-ce qui m'inspire beaucoup ? La nature. C'est débile à dire, mais genre, je trouve que lorsqu'on est trop dans le béton, on est loin des vraies choses. Et parfois, c'est bien de sortir, de déconnecter. Et c'est inspirant de se retrouver souvent seul dans un champ ou dans une forêt ou au bord d'une rivière. Tu vois, au bord de la plage ou n'importe où, mais dans un truc très sauvage, et se dire, mais en fait, est-ce que genre, ça vaut vraiment la peine de se prendre autant la tête pour des bêtises alors qu'il y a tout ça autour de moi et que au final, on n'est pas grand-chose par rapport à toute cette force-là. Tu vois, bah ça, on s'en rend pas trop compte, en fait, qu'on est entre deux bâtiments et avec des autoroutes, des feux, machin. Mais on s'en rend beaucoup compte, je trouve, lorsqu'on est seul autour d'une immensité. Souvent, lorsque tu es également... alors moi, je fais pas de voile, mais les gens qui font du bateau m'ont souvent dit, et ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, tu es tout seul dans l'océan. Tu vois, genre l'immensité. Tu vois même pas la Terre. Et là, pareil, c'est inspirant parce que tu te dis, mais en fait, je suis rien. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, tu te remets beaucoup en question et donc du coup, ça te permet également de pouvoir relativiser beaucoup de choses, de te recentrer sur les priorités, toujours dans le cadre pro, perso, extra.
Non, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Tu peux prendre du recul et relativiser quand tu reviens un peu à la base et quand tu vois toutes ces choses qui, en fait, bah, toi, t'es un peu, t'es un peu l'aiguille dans une botte de foin. Bien sûr. Et quoi qu'il arrive, il faut arrêter de se stresser ou de se
surtout prendre pas se la tête, pour des trucs. Vois, genre, moi, je vois trop de gens qui ont levé beaucoup d'argent ou qui ont fait des très belles choses et qui, en fait, ont perdu leur valeur, ont perdu en fait également, se rappellent plus d'où ils viennent. Ils se rappellent plus d'où ils viennent, ils se rappellent plus d'où ils ont commencé et donc ils prennent vite la grosse tête, les gars. Et ça, je pense que c'est désolant. C'est ce genre justement de petit voyage où tu te retrouves un peu tout seul qui te permet de pouvoir te rappeler d'où tu viens pour savoir où tu vas.
Rester connecté à toi-même, quoi.
Ouais, exactement. Je pense que c'est ça, ouais. Je finirai sur ça. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va.
Ok, bah parfait. Et du coup, dernière petite question pour les personnes qui vont écouter l'épisode et qui ont envie d'en savoir plus sur toi ou te contacter. T'es sur les réseaux, t'es plus sur quoi ?
Je suis sur LinkedIn à fond. C'est-à-dire que tu m'envoies un mail sur LinkedIn. Généralement, je réponds dans l'heure. Enfin, je suis hyper réactif. C'est quasiment tout. Genre, j'ai pas Facebook. Tu vas me dire, quoi, t'as pas Facebook ? Non, j'ai retiré Facebook, en fait, il y a, je sais pas, d'avoir 5 ans. Et franchement, même si je kiffe bien Mark Zuckerberg, je sais pas Facebook. Enfin, je trouve qu'il y avait trop de... Quand je me suis retiré, il y avait trop de rage, trop de haine gratuite, tu vois, où les gens, en fait, ils insultent les gens derrière leur écran parce que c'est tellement facile. Et être spectateur de ça, je voyais pas le délire. Et Insta, un petit peu, mais je suis pas le genre de mec qui veut balancer ma vie sur Insta, mais c'est assez marrant. Je trouve que c'est assez marrant Insta, justement, pour s'intéresser à d'autres... à des personnes en particulier, mais à d'autres formes d'art ou de passion que peuvent avoir les gens, d'un point de vue un petit peu... intrusive.
Ouais. Voilà. Ok, ça marche. Bon, je mettrai tout ça en description de l'épisode, donc LinkedIn. Et merci beaucoup, Ariel. C'était un plaisir.
Merci à toi.
Et plein de bonnes choses pour la suite.
Merci
et à très
beaucoup.
Vite.
Merci beaucoup. Merci. À très vite. Ciao, ciao.
Merci beaucoup d'avoir écouté Bonjour l'Inspi. Si ça vous a plu, dites-le moi en vous abonnant sur la plateforme de votre choix, en laissant un avis 5 étoiles et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me poser toutes vos questions et à me suggérer de nouveaux invités. Vous pouvez le faire sur Instagram, sur le compte Bonjour l'Inspi-podcast ou sur le site bonjourlinspi.fr. Encore merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.